Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez. Studio à commercial, cube.radio ou 1-877-827-2346.
1-877, cube radio.
On apprenait ce matin, entre autres du côté de Radio-Canada, qu'il y a plus d'une école sur deux en ce moment au Québec qui est cotée D ou E. D ou E, dans le fond, c'est la cote qui est donnée justement pour l'état de l'école. Et ça, ça signifie, comme dans un bulletin scolaire, si vous en souvenez, mauvais ou très mauvais état. Et quand je dis plus d'une école sur deux, c'est 53% des écoles du Québec qui obtiennent ces cotes-là. Pourtant, la CAQ avait changé ses cibles, les avait même abaissées pour être capable d'atteindre la moitié, c'était 50% l'objectif. C'était de passer de 85% à 50% l'objectif d'avoir des écoles en état acceptable. Et donc, on n'atteint même pas cet objectif de 50%-là. Pour en parler avec nous, Kathleen Legault, qui est présidente de l'Association montréalaise des directions d'établissements scolaires. Madame Legault, bonjour.
Bonjour à vous.
Tout d'abord, là, êtes-vous surprise de voir que le gouvernement rate la cible? Je le dis pour les auditeurs, la grande majorité des écoles, entre autres, qui sont vétus comme ça, qui ont des notes de D ou E, se trouvent justement sous votre juridiction dans la grande région de Montréal.
Ah oui, puis à Montréal, on est même à 65% de vétusté. Donc, c'est encore pire que le reste du Québec. Donc oui, c'est très préoccupant. L'état des écoles de Montréal est déplorable.
Déplorable, on s'entend, mais qu'est-ce qui... Vous, ça vous surprend pas du tout, là, on voit les écoles, on sait, ça fait longtemps, il me semble, qu'on parle d'écoles vétus, qu'on parle, entre autres, mais de problèmes. Là, dans le dernier article, justement, je le citais tout à l'heure, on parle de problèmes de fenêtres, de plomberie, de façade. Il y a même des infestations de souris, dans certains cas, des excréments, de l'urine, qu'on trouve, c'est absolument dégoûtant à entendre. Et les fenêtres, surtout, là, le tout ce qui est de voir à l'intérieur, mais de la lumière, hein, de donner un environnement adéquat aux élèves. C'est quoi les impacts d'un environnement comme ça qui est inadéquat dans l'apprentissage d'un élève, d'un étudiant, d'un enfant?
Oui, puis vous avez nommé certains des problèmes, mais il y en a bien d'autres, là. Pas de chauffage en certaines sections l'hiver ou des locaux surchauffés. En fait, tout ce qui nuit au bien-être, puis ultimement à la réussite des élèves. Donc ça nous préoccupe. Puis, sincèrement, là, chaque jeune a le droit à une belle école, lumineuse, ventilée. Puis actuellement, on se questionne là, sur comment on va faire pour faire l'école avec la pénurie de personnel, puis on cherche à valoriser le personnel. Peut-on avoir de belles écoles pour justement avoir des milieux de travail sains, sécuritaires, puis que ça soit motivant à rentrer au travail le matin? Donc, ça touche autant le personnel que les élèves, la situation actuelle.
Oui, parce que comment vous placeriez dans votre liste, disons, des priorités, parce que le système de l'éducation coule de partout. On sait qu'il y a des problèmes justement de rétention de personnel. On a modifié le salaire de certains enseignants, mais il y a encore les conditions qui sont là. On a de la difficulté à recruter des enseignants. Et là, on parle d'écoles qui ont de la difficulté justement simplement à exister sans couler, fuiter d'un peu partout, être aéré comme il faut. Il y a eu, pendant la pandémie, l'aération dans les classes qui a été défaillante. Ça a été une saga qui a duré au-dessus d'un an et finalement, il n'y a pas eu vraiment les résultats escomptés de ce côté-là. Heureusement, la pandémie s'est calmée un tout petit peu. Dans la longue liste des priorités de ce que vous avez besoin dans les écoles, où se classent les locaux comme ça puis la rénovation des écoles?
La première priorité, ça serait de mettre plus de ressources dans les zones du Québec qui sont plus touchées par la vétusté.
Donc Montréal, donc la vôtre.
Montréal, puis aussi Laval, hein, des lieux où il y a des écoles plus anciennes, des écoles centenaires. Donc c'est normal que ces écoles-là ont besoin d'être remplacées. Pendant des années, on a sous-financé l'entretien des écoles. C'est comme votre maison, hein, si vous faites pas le toit puis que ça coule, puis etc. Donc quand vous décidez de vous en occuper, ça coûte plus cher. Donc les écoles ont été quelque part abandonnées pendant plusieurs décennies. On les a pas entretenues adéquatement et là, on arrive à ce constat-là. Puis le problème, c'est que ça prend tellement de temps entre le moment où on voit le problème puis le moment où il est réglé. Ça peut prendre jusqu'à 7 ans quand le centre de services scolaires présente un projet en disant cette école-là doit être rénovée, agrandie, imaginez 7 ans. Donc la première chose, réduire les délais, réduire la bureaucratie, puis en faire une urgence. On sent pas l'urgence de ce gouvernement par rapport à plusieurs dossiers. Puis c'est comme si il n'y a pas de plan précis. Vous savez, oui, on investit plus. Et ça, on doit le souligner, là. Il y a eu un réinvestissement et il y a des projets qui ont vu le jour. Et ça, c'est très positif.
Oui.
Chaque école qui ouvre, qu'on inaugure, regardez, c'est un moment heureux pour peu importe où cette école-là sauf que ce soit un agrandissement ou puis un gymnase moderne. Imaginez qu'encore aujourd'hui, dans certaines écoles, on est encore avec des salles, avec des colonnes dans le milieu pour les activités sportives.
Il y a des incohérences là, ça je vous l'accorde, puis vous le dites là, en ce moment on est rendu là dans le plan québécois des infrastructures de 2018 à 2028, puis dans le plan là 2022-2032, c'est 13 milliards de dollars, 13 milliards qui est consenti là spécifiquement au maintien ou à la reconstruction des bâtiments qui sont dits vétus. Mais on a une espèce de logique, je veux dire, en bon québécois, puis c'est des termes qui ont été repris par Jean-Pascal Foucault là, qui est un expert, entre autres, dans la gestion des actifs physiques, lui qui parle d'une logique de patchage. En bon français, on met des patchs, on se contente de réparer un trou dans un mur, par exemple, mais l'école est pas rénovée. Est-ce que c'est pas une obligation au moment où on peut pas réparer toutes les écoles en même temps, où on enverrait les élèves, où on les déplacerait? C'est quoi la solution à ce moment-là? Par exemple, on veut commencer à rénover des écoles de fond en comble, on en rénove plusieurs. Qu'est-ce qui arrive? On déplace les élèves, on les envoie dans une autre école, dans un autre endroit. C'est quoi les solutions concrètes qu'on peut voir là, pour rénover les écoles rapidement sans avoir à garnoter, encore une fois en bon français, des étudiants un peu partout?
En fait, si on fait du patchage, des fois, c'est parce qu'il n'y a pas assez d'argent. Parfois, le centre de service scolaire doit présenter son projet pendant 2 ou 3 ans avant qu'il soit accepté. Donc ça, c'est un premier problème. C'est parce que les fonds, même s'ils sont plus généreux, sont toujours insuffisants. Ça, c'est le premier problème. Comment on fait avec les élèves? Ça dépend du projet. Parfois, on peut le faire en phase, ce qui fait qu'on peut déplacer les élèves dans certains secteurs de l'école pour éviter de sortir les élèves de leur quartier. Parfois, on les relocalise dans une école secondaire à proximité où il y a de l'espace. Parfois, on met des unités préfabriquées. Chaque projet est différent. Donc, on vise toujours le bien-être de l'élève. On vise aussi à travailler avec les parents pour regarder les différentes solutions. Puis, chaque cas est unique. Mais oui, effectivement, il y a un enjeu parfois de relocalisation des élèves pendant des travaux. Mais quand on rêve à notre belle école qu'on va réintégrer, on espère que ça prendra pas 7 ans. Ça aussi, c'est un problème. Mais qu'on va réintégrer dans 2, 3, 4 ans, ben ça vaut peut-être la peine de faire certains sacrifices.
Ouais, ça vaut peut-être la peine de faire certains sacrifices, vous le dites. Puis les écoles, la plupart, vous parlez d'écoles centenaires à Montréal, ça oui, il y en a, hein. Mais il y a aussi beaucoup d'écoles. La grande majorité des infrastructures publiques du Québec a été construite dans les années 60, 70. Et là, c'est beaucoup de ces infrastructures-là qui, tout d'un coup, on se rend compte que leur vie utile est de 25 ans, 30 ans, 35, 40. Et que là, ben, comme tout a été construit en même temps, tout est dû pour être fait. Vraiment, on a tout un problème sur les bras. Quoi qu'il en soit, en espérant que cet été, pendant que, justement, les élèves sont chez eux, sont en vacances, sont au camp de jour, c'est peut-être le bon moment pour accélérer, faire une espèce de blitz, si on veut, de marathon de reconstruction d'école. Bref, je lance des idées comme ça en l'air, mais vous l'avez dit, la bureaucratie, c'est loin d'être aussi rapide. Madame Kathleen Legault, présidente de l'Association montréalaise des directions d'établissements scolaires, merci beaucoup d'avoir été des nôtres.
Merci à vous.
Au revoir. C'est ce qui conclut notre émission pour aujourd'hui. Beaucoup d'actualités. Je vous réinvite à aller réécouter notre entrevue avec Tasha Carradine un peu plus tôt à l'émission si vous vouliez entendre des nouvelles de la chefferie conservatrice au Parti conservateur du Canada. C'était fort intéressant. Je remercie toute l'équipe qui est avec moi. Jean-François Roy à la console. On a également Florence Lamoureux qui est derrière la recherche. Merci à tous d'avoir été là. On se retrouve demain, 9h.